الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة الأول من شهر صفر عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثالث عشر من قراءة كتاب كشف الشبهات لمؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 21 octobre 2017 et nous voici réunis pour le 13e cours du livre كشف الشبهات, la dissipation des ambiguïtés, par l'auteur Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et accepte ses bonnes œuvres. Ceci étant dit, nous sommes toujours dans la fin de la 9e ambiguïté évoquée par ceux qui ont tenté de justifier leur acte de polythéisme en adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le shirk, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, a clarifié les preuves que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration, ils ont émis des ambiguïtés afin de tromper les gens et d'essayer de leur faire croire qu'ils se sont basés pour agir et faire leurs œuvres sur le Coran et la Sunna, alors qu'en réalité, ce sont des textes qui portent à confusion pour ceux qui n'ont pas une science enracinée. Ici, l'auteur y répond. Et nous sommes dans cette 9e ambiguïté, celle où ces gens disent, vous dites de musulmans qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est le résumé de leur ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté? Ils disent, ceux dont vous parlez lorsque vous citez les versets du Coran, ces versets du Coran ne nous concernent pas, mais ils concernent plutôt des gens qui n'adoraient pas Allah Azza wa Jal, des gens qui refusaient de dire la ilaha illallah, des gens qui reniaient l'arrivée de l'heure. Quant à nous autres, nous sommes différents d'eux, nous croyons à tout cela. Comment pouvez-vous dire de nous que nous ne sommes pas musulmans? Donc pour eux, à partir du moment où ils ont réuni en eux toutes ces choses, ils sont musulmans. Et ils ne peuvent annuler cet islam qu'ils ont. Ce qui est faux, bien évidemment. Et l'auteur a répondu par 9 réponses qu'il a données. La dernière, c'était l'histoire de nous allons revoir la dernière, Inch'Allah. De ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé concernant le peuple de Banu Israël, qui avait dit à Moussa alayhi salam, après avoir vu d'autres personnes adorer une divinité, de leur donner à eux aussi une divinité afin qu'ils fassent la même chose qu'eux. Ce qui est arrivé à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons lui ont demandé de leur donner un arbre, comme certains polythéistes en avaient un, à la recherche de la baraka jusqu'à la fin de l'histoire. Et l'auteur, rahimahullah, a utilisé ces récits pour prouver que les deux prophètes ont blâmé leur peuple parce qu'ils ont demandé à leur prophète d'autres divinités. Ce qui prouve que malgré le fait qu'ils accompagnaient le prophète en question, qu'ils disaient la ilaha illallah, qu'ils appliquaient les ordres de son prophète, le prophète les a réprimandés quand même. Et s'ils avaient agi, ils auraient quitté l'islam à l'unanimité. Donc le simple fait de dire la ilaha illallah, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran, à l'heure, n'est pas suffisant pour faire de toi un musulman si tu commets un annulatif de l'islam. Puis, à la fin de cette réponse, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa tufidu aydan anna al-muslim al-mujtahid إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. Parmi les leçons à tirer de ce récit, le récit où les compagnons ont demandé un arbre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le peuple de Moussa avec leur prophète alayhi salam, le fait que lorsque quelqu'un prononce une parole qui relève de la mécréance, alors qu'il ne le sait pas, il prononce une parole de mécréance tout en étant ignorant. S'il est averti au moment où il a prononcé cette parole et se repent immédiatement, alors il ne mécroit pas. Lorsque quelqu'un prononce une parole de mécréance dont il ignore le statut et la gravité, s'il est averti après avoir prononcé cette parole, puis se corrige, il n'a pas mécru. Et c'est ce que l'on retient de cette histoire où les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner un arbre sur lequel ils pouvaient ou pourraient accrocher leurs armes pour y prendre de la bénédiction, ce qui est un acte de polythéisme. Et pour autant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit qu'ils ont quitté l'islam. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un prononce une parole de mécréance tout en ignorant, si cette personne est avertie et se repent immédiatement, elle ne tombe pas dans la mécréance. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر. Tout d'abord, lisons ce qu'a dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, حفظه الله. وهي فائدة عظيمة أن من نطق بكلمة الكفر عن جهل وهو لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر. C'est une faïda, c'est une leçon à tirer très importante. Que quand quelqu'un prononce une parole de mécréance, par ignorance, sans le savoir, si ce quelqu'un est averti et se rétracte au moment même où il est averti et se repent, alors il ne mécroit pas. La preuve en est ces deux histoires que nous avons citées. Wa ba'du as-sahabati ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. قصه بعض الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. Mais il faut absolument réunir ces deux conditions. La première, c'est l'ignorance. Donc la personne qui a prononcé une parole de mécréance en pleine connaissance de cause n'est pas concernée par cette excuse. La deuxième condition, c'est que la personne se corrige et se repente au moment même où elle est avertie. Car dans le cas contraire, elle ne serait pas prise en compte par cette excuse. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dernière leçon à tirer de cette histoire. Même si la personne n'a pas mécru, on se doit de la réprimander avec dureté et être rude, comme ce fut le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons lui ont demandé un arbre, comme vous connaissez l'histoire. Cette action relève du polythéisme. Ils étaient ignorants. Ils ne le savaient pas. Est-ce que le fait qu'ils étaient ignorants a empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les blâmer fortement? Non. Et c'est ce que l'on retire ici. Que lorsque quelqu'un s'apprête à prononcer une parole de mécréance ou commettre un acte de polythéisme ou de mécréance, même s'il en est ignorant, on se doit de le blâmer, de le réprimander, le but étant de le sensibiliser sur la gravité de cette parole ou action qui relève du polythéisme. L'auteur a dit, en passant à la dixième ambiguïté, وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى. Ces gens-là ont une autre ambiguïté. يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْكَرَ عَلَى أُسَامَةَ قَتْلَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالْ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Ces gens disent, le prophète عليه الصلاة والسلام a réprimandé le noble compagnon Usama, et c'est Usama ibn Zayd, qu'Allah l'agré, un des plus aimés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait tué une personne qui avait dit « La ilaha illallah ». Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Aqateltahu ba'dama qala la ilaha illallah ?» L'as-tu tué après qu'il ait dit « La ilaha illallah ?» L'histoire de ce récit, c'est en période où les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient en guerre. Dans cette période, un homme qui était proche de ce noble compagnon qui est Usama, qu'Allah l'agré, a vu Usama venir vers lui et a dit « La ilaha illallah ». Usama, qu'Allah l'agré, n'a pas prêté attention à cette parole. Lorsque cet homme est mort et le prophète alayhi salat wa salam l'a entendu, il l'a réprimandé. Usama radiyallahu anhu lui a dit « Ô messager d'Allah, il n'a prononcé cette parole que pour se protéger. » C'est-à-dire, il n'était pas sincère. Et le prophète alayhi salat wa salam l'a réprimandé et lui a dit « As-tu regardé ce qu'il y a dans son cœur ?» Et il n'a cessé de répéter ces paroles. Après qu'il ait dit « La ilaha illallah », après qu'il ait dit « La ilaha illallah », au point où Usama, qu'Allah l'agré, a dit « J'aurais souhaité ne pas avoir été encore musulman à cette époque. » C'est-à-dire entrer dans l'islam après avoir fait ça. Et pas avoir eu fait ça, et pas avoir fait ça en tant que musulman. Donc ceci, pour eux, est une preuve que pour les gens du soufisme qui justifient leur polythéisme, que celui qui dit « La ilaha illallah » doit être considéré comme un croyant, c'est-à-dire quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Ils ont cité comme preuve ce récit et d'autres. « Wa muradu ha'ula il jahala anna man qala la ilaha illallah la yakfur wa la yuqtal wa la fa'ala ma fa'al » Ce que ces ignorants entendent par cette argumentation, c'est de dire que celui qui dit « La ilaha illallah » ne mécroit pas quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Ont-ils raison? Non, ils n'ont pas raison. Comment répondre à cette ambiguïté? C'est justement ce qui va suivre, Inch'Allah ta'ala. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, a dit يعني أن النطق بها كاف في إسلام العبد. Ils entendent par là que la simple prononciation de la parole La ilaha illallah est suffisante pour affirmer l'islam de l'individu. ومرادكم أنكم معشر الموحدين تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله. De même, ils entendent par là que les gens du tawhid, qui appellent les gens à la sunna et au tawhid, disent de gens qui disent La ilaha illallah qui ne sont pas croyants. Et cela montre leur ignorance manifeste et leur aveuglement. Car d'après eux, la religion est affirmée à partir du moment où la personne a prononcé « La ilaha illallah ». Quoi que la personne dise, quoi que la personne fasse, elle ne pourrait sortir de l'islam, ce qui est faux. Car l'islam a des actions, des paroles, des croyances qui sont annulatives. Si la personne les commet, elle n'est plus musulmane. À l'image des ablutions, de la purification pour la prière, la personne qui entre en prière, mais qui perd un gaz, sa prière est-elle valable? Non. Si cette personne te disait « J'ai pourtant fait mes ablutions », tu lui répondrais « Bien évidemment, mais tu les as annulées. Tu as commis un annulatif. » C'est pareil pour l'islam. Il a des annulatifs. Ainsi, cette ambiguïté en réalité est faible et il va, dans la réponse, montrer la caducité de cette ambiguïté ou alors le fait que cette ambiguïté est fausse et ne tienne pas la route. Fayuqalu لهؤلاء المشركين. Parmi les réponses données, nous allons lire quelques-unes. assez polythéiste. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. بنو حنيفة la tribu qui a suivi Musaylama al-Kadhab, cet homme qui a dit « Moi aussi je suis un prophète » et qui tuait les compagnons qui refusaient de le suivre. Suite à quoi les compagnons se sont défendus. Il y a eu un combat entre eux. Les gens qui étaient avec lui prononçaient la parole « La ilaha illallah », accomplissaient la prière et prétendaient être musulmans. Cela n'a pas empêché les compagnons de les combattre. Pour quelle raison? Parce que, comme nous l'avons dit, ils ont commis un annulatif de l'islam en croyant qu'il y a, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un autre prophète. Donc le simple fait d'avoir dit « La ilaha illallah » n'a pas épargné ces gens-là de la sortie de l'islam par un acte qui est annulatif. Si les gens disent, ces soufis diraient ici, c'est différent car, comme on l'a déjà vu, car les compagnons ont combattu ces gens parce qu'ils disaient de Musaylama qu'il est un prophète. Il a élevé Musaylama au rang d'un messager. On leur dirait alors, c'est exactement ce dans quoi nous voulions vous voir tomber. Car si quelqu'un qui a élevé un homme au niveau d'un messager a mécru, qu'en est-il de celui qui élève un homme au niveau d'Allah tabaraka wa ta'ala? À plus forte raison. Puis il a cité d'autres réponses, rahimahullahu ta'ala, toujours pour prouver que leur ambiguïté est fausse. Il va ensuite s'étaler et dire « Wa ha'oula il jahala » مقرون أن من أنكر البعث كفر et ces ignorants attestent et croient au fait que celui qui renie la résurrection a mécru. Ces gens-là, les polythéistes, les associateurs, si tu interroges n'importe lequel d'entre eux, que dis-tu de quelqu'un qui dit Allah Azza wa Jal ne va pas nous ressusciter après la mort, ni ne va nous juger? Ils te répondraient tous à l'unanimité d'une seule et même voix, c'est un acte de mécréance. La personne est sortie de l'islam. On lui dirait, mais pourtant cette personne dit la ilaha illallah. Il répondrait, ça ne change rien, car elle a commis un acte qui fait sortir de l'islam. On lui dirait alors, vous dites que cette personne a quitté l'islam parce qu'elle a renié un des points de la croyance, qui est la résurrection. Mais lorsqu'il s'agit de la base de tous les points de la croyance, de l'essentiel, du plus important, qui est renié, vous trouvez des excuses et dites que la personne n'a pas quitté l'islam. Vous voyez bien que cette ambiguïté est faible et c'est ce que dit ici le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Même s'il prononce cette parole, pour eux, celui qui renie le jugement, la résurrection, a mécru. Eh bien, c'est pareil pour celui qui renie le tawhid, et même à plus forte raison, en réalité. C'est pour cela que l'auteur dit « فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْفُرُوعِ فَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الدِّينِ الرُّسُلِ وَرَأْسُهُ » Comment dites-vous que cette parole ne lui est pas utile quand il a renié une des branches dans la religion, dans la croyance, et cette parole lui est utile lorsqu'il a renié la base de toutes les bases, qui est ce pourquoi tous les prophètes ont été envoyés. Puis l'auteur dit « وَلَكِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ مَا فَهِمُوا مَعْنَى الْأَحَادِيثِ » Mais en réalité, les ennemis d'Allah n'ont pas compris le vrai sens de ces récits. Et là, on va voir Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, et leur compréhension enracinée des textes. il dit فَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ. Quant au hadith, le récit de Usama dont vous avez entendu parler. فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا اِدَّعَ الْإِسْلَامِ بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَدَّعَاهُ إِلَّا خَوْفًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ وَالرَّجُلُ إِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا أي فَتَثَبَّتُوا. Premièrement, le récit de Usama. Usama a commis cette erreur dont vous avez entendu parler en détail. Alors qu'en réalité, lorsque la personne prononce la ilaha illallah, on a l'interdiction de dire de cette personne qu'elle n'est pas croyante. On doit s'abstenir de cela. Et on ne pourra le dire que si l'on voit en elle l'annulation de cette parole qu'elle a prononcée. On ne doit pas dire de cette parole, de cette personne, pardon, malgré la prononciation face à nous de cette parole, qu'elle n'est pas croyante. Ce serait une erreur. Et c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suite à ce fait, justement, un verset a été révélé où Allah azza wa jal dit aux croyants de, dans le sens du verset, de ne pas se précipiter, de vérifier, c'est-à-dire avant de dire que la personne n'est pas croyante. Donc, on voit qu'en réalité, certes, Usama, qu'Allah l'agré, a commis une erreur, mais cette argumentation n'est pas en leur faveur. Au contraire, elle est contre eux. Ainsi, celui qui prononce la parole « La ilaha illallah » qui à la base n'était pas musulman, mais prononce la parole « La ilaha illallah » doit être considéré comme un musulman jusqu'à preuve du contraire. C'est ça qui est voulu. Jusqu'à ce que cette même personne commette un annulatif, que ce soit verbal, dogmatique dans la croyance ou physique dans les actes. Quelle est la preuve de cela? Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit: "Wa ad-dalil 'ala hadha", la preuve de cela, "anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam alladhi qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah", est que le prophète alayhi salatu wa salam, qui est celui qui a dit "L'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah", huwa alladhi qala fil khawarij, est le même qui a dit concernant les khawarij, aina malaqitumuhum faqtuluhum, où que vous les voyez, tuez-les. Les khawarij, qui sont-ils? Les khawarij, ce sont ceux qui ont des fondements égarés dans la croyance. On en a parlé en détail dans le livre Usul Sunna de l'imam Ahmad rahimahullah, dans un chapitre consacré à eux, et dans d'autres récits aussi comme Kitab al-Tawhid et Al-Usul al-Thalatha et d'autres livres qu'Allah nous a facilité d'étudier et enseigner. Mais pour résumer cela, les Khawarij sont des criminels qui agissent au nom de l'islam. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de leur mal. Ils disent des musulmans qui commettent des péchés majeurs qu'ils ont quitté l'islam. Ils incitent la masse des musulmans à se révolter contre les détenteurs de l'autorité, ce qui est interdit. Ils incitent les musulmans à commettre des meurtres ou des assassinats, ce qui est interdit. Ils commettent des actes de terrorisme, ce qui est interdit. Et à notre époque, les plus connus sont bien sûr les gens de Daesh et les gens de Al-Qaïda. Il n'y a aucun doute que ces gens-là sont des criminels et n'ont rien à voir avec l'islam. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que des gens allaient venir après eux. Ils sont dévots. Ils ont des bonnes actions en apparence. Ils lisent le Coran, ils jeûnent, ils prient la nuit, ils font des aumônes peut-être, mais c'est-à-dire au point où l'un d'entre vous dénigrera sa propre prière devant la leur. Sa lecture du Coran devant la leur. Les sahaba radiyallahu anhum, s'ils voyaient ces gens-là, ils se diraient: j'ai beaucoup de manque dans ma prière. J'ai beaucoup de manque dans ma lecture du Coran. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wa salam a dit que leur lecture du Coran ne dépasse pas leur clavicule. Certains savants ont dit, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont lire, les actions à la base sont élevées vers Allah pour lui être présentées. Pour lui être présentées. Elles s'arrêteront ici. Allah n'en veut pas de leurs actions. Allah Azza wa Jal les déteste, ces gens-là. Yubridhuhum Allah. Mujrimoun. Des criminels. Shawahu sum'at al-muslimin wal-islam. Fil alam. Ils ont sali l'image des musulmans. Ils ont sali l'image de l'islam dans le monde. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont trompés par ces gens-là à cause d'Internet. Ils consultent, ils lisent, ils sont attirés par leur curiosité et à la fin, ils tombent dans leur égarement et les suivent en pensant secourir l'islam, en pensant secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela est un égarement. Hada kulluhu haram. Ce sont des criminels. Et pour cela, le prophète alayhi salatu wa salam a montré à sa communauté que ce sont des gens mauvais. Et la secte contre laquelle le prophète alayhi salatu wa salam a mis en garde avec le plus de détails, c'est la secte des Khawarij. Et les concernant, il a dit: aynama laqitumuhum faqtuluhum, yani wulat al-amr la ammatul muslimin. C'est-à-dire les détenteurs de l'autorité. Il n'appartient pas aux individus de la masse d'agir ainsi. Les concernés sont les détenteurs de l'autorité. Les détenteurs de l'autorité doivent combattre ces gens-là, ces criminels, ces gens mauvais. D'ailleurs, ils ont été combattus par les compagnons, radiyallahu anhum. Ce qui nous concerne ici, n'est-ce pas que ces gens-là disaient la ilaha illallah? N'est-ce pas que ces gens-là accomplissaient la prière? N'est-ce pas que ces gens-là jeûnaient? N'est-ce pas que ces gens-là lisaient le Coran? Au point où Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il s'est rendu vers eux, dans l'endroit appelé Haroura, où il s'était regroupé et isolé du reste de la communauté, car ce sont leurs actions. Ils restent ensemble dans des endroits cachés. Ils s'isolent des gens, ils s'isolent de la communauté. Dès que tu vois un musulman qui commence à s'isoler des gens de la sunna, à s'isoler des masses, de la masse des musulmans, sache qu'il risque de suivre un égarement. Il n'y a rien à cacher dans l'islam. Et dans l'islam, il n'y a pas d'isolement. L'islam est dans le Coran et dans la sunna, tout simplement. Eh bien, Abdullah ibn Abbas a été à leur rencontre pour les inviter à la sunna et peut-être va-t-il être la cause de leur repentir. Lorsqu'il est arrivé à eux, il dit dans le récit qu'il entendait des bourdonnements. Il entendait des bourdonnements. Puis lorsqu'il est entré dans le village, il les voyait tous en train de réciter le Coran. Chacun avait un mushaf dans la main. Ils lisaient tous le Coran. Est-ce que cela est utile pour eux? Non. Parce qu'ils n'ont pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi nous voyons très clairement que prononcer la parole la ilaha illallah n'est pas de façon absolue protecteur de la personne. Si cette personne commet un annulatif de la parole la ilaha illallah. Fal khawariju yaquluna la ilaha illallah wa yaziduna ala qawli la ilaha illallah. فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ces gens-là ont prononcé cette parole et pourtant, ils ont même fait d'autres actions qui ne leur ont été d'aucune utilité. Donc voici la réponse à cette ignorance. Question. ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ Quelle est la différence entre cette ambiguïté et la précédente? Dans l'ambiguïté précédente, les polythéistes ont dit: comment pouvez-vous dire que nous sommes assimilés à ces gens-là dont Allah a parlé dans le Coran, qui sont les polythéistes, les associateurs, alors qu'il s'agissait de gens qui mécroyaient la résurrection, qui mécroyaient au Coran, qui ne disaient pas la ilaha illallah, qui ne priaient pas, qui ne jeûnaient pas, alors que nous autres, nous avons toutes ces actions? Ça, c'est l'ambiguïté précédente. Cette ambiguïté que nous venons de citer est légèrement différente. C'est que pour eux, lorsque l'on dit la ilaha illallah, on est épargné de la sortie de l'islam. Elles sont certes proches, mais en réalité, il y a une petite différence. La différence, c'est que dans la première, من وجد منهم كفر بأن كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم في شيء ومكذبه في شيء. Celui dont on voit un annulatif de l'islam, comme par exemple la personne qui croit au prophète صلى الله عليه وسلم mais renie une partie de son message. أو وجد مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق. Ou alors la personne qui élève une créature au degré du créateur, ou d'autres choses, comme la personne qui se moque, man istahza'a bi kitabillah azza wa jal bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui se moque du livre d'Allah, qui se moque d'un verset, de la sunna, d'une sunna. Eh bien, la personne a un annulatif qui lui annule tout ce qu'elle a fait. Pour montrer que tous ces points de différence qui ont été évoqués par le polythéiste, le fait qu'il dise la ilaha illallah, le fait qu'il prie, qu'il jeûne, cette première ambiguïté et sa réponse montrent que toutes les différences sont inutiles quand la personne annule son islam. C'est ce qui est voulu. وحاصله أن من وجد منهم كافر فهو مثلهم. Ainsi, celui dont on voit un annulatif est comme eux, même si en apparence il semble être différent. Vous comprenez? Je répète, dans la réponse à la première ambiguïté, on a voulu montrer que dès que la personne commet un annulatif de l'islam, toutes ces différences apparentes entre elle et l'autre personne qui ne fait pas toutes ces actions apparentes n'ont aucun effet. Et dans celle-ci, dans la deuxième, c'est que d'après eux, celui qui dit la ilaha illallah, là on ne parle plus de toutes les autres différences. La simple prononciation de la ilaha illallah fait que la personne est musulmane. Et on ne peut plus rien lui dire à cette personne. Et la réponse, vous l'avez entendue. Donc ce sont deux ambiguïtés qui se ressemblent et dont les réponses se complètent les unes les autres. Ash-shubhatul hadiyata ashara, la onzième ambiguïté. Wa lahum shubhatun ukhra, ils ont une autre ambiguïté. Wa hiya ma dhakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna an-nasa yawm al-qiyamati yastaghithuna bi adam thumma bi nuh thumma bi ibrahim ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. Cette ambiguïté est la suivante. Le prophète صلى الله عليه وسلم a cité dans un hadith qui est authentique que le jour de la résurrection, les gens se dirigeront vers Adam alayhi salam pour lui demander secours afin qu'il intercède auprès d'Allah pour que le jugement commence. Adam va les renvoyer vers Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, Isa. Chacun expliquera qu'il ne pourra rien faire. Au moment où ils se tiendront devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah lui donnera la permission d'intercéder. D'après eux, ceci est une preuve qu'il est permis de demander secours à autre qu'Allah. Et demander secours à autre qu'Allah, Azza wa Jal, n'est pas du polythéisme. Je vois certains d'entre vous qui sourient tellement cette ambiguïté est faible. Et vous avez raison de trouver cette ambiguïté faible. Vous avez raison de trouver cette ambiguïté faible. Mohammed ibn Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: إذا اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء. Le jour de la résurrection, le temps va leur sembler long. Ils attendront, mais Allah ne fera pas débuter le jugement. C'est alors qu'ils auront l'idée de se rendre vers ou se diriger vers les prophètes pour leur demander d'intercéder pour eux. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira: Ana laha, elle est pour moi, ou alors je suis pour elle, c'est-à-dire l'intercession m'a été accordée. Wahiya shafa'atul uzma, c'est ce que l'on appelle la grande intercession, pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de faire commencer le jugement. C'est une des spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, que nul ne partage avec lui d'ailleurs. D'après eux, c'est une preuve que demander secours à autre qu'Allah n'est pas du polythéisme. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Wa hadha min jahlihim. Cela fait partie de leur ignorance. Ma arafu al-farq bayna al-istighathatayn. Car ils n'ont pas compris la différence entre les deux demandes de secours. الاستغاثة التي هي يوم القيامة أو الاستغاثة بالمخلوق الذي يقتر على الإغاثة, qui est de demander à une créature un secours qu'elle peut apporter. Tu es sur le point de te noyer, elle passe sur une barque face à toi, tu lui demandes secours, c'est du shirk. Quelqu'un dira que c'est du polythéisme. Bien sûr que non, cette personne est vivante, présente et capable de t'apporter secours. Et la deuxième demande de secours, tu demanderais à quelqu'un de te protéger du feu. C'est permis de te protéger de l'enfer. C'est permis de te protéger du mauvais œil. C'est permis de te protéger de la tristesse dans la vie, de te protéger de la maladie. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux demandes de secours. L'une est permise, l'autre est interdite. Celle qui est permise et celle qui est citée dans ce récit. Parce que le jour dernier, ces gens-là se tiendront debout devant le prophète, alayhi salatu wassalam, qui sera avec eux et qui aura la permission d'Allah et la capacité. Ainsi, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est permis tout simplement. Mais ça ne peut pas justifier leur forme de polythéisme. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته معهم في القيامة أكمل والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي ما يأتي بيانه وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر. Demander secours à un absent ou alors un mort ou un vivant présent mais incapable. Cette catégorie de secours, nul autre qu'Allah ne peut l'apporter. C'est celle-ci qui relève du polythéisme. Quant à celle qui est licite, وَأَمَّا الْجَائِزَةِ فَهِيَ طَلَبُ الْحَيِّ الْحَاضِرِ وَجِنْسُ سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَوْجُودٌ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ انْقَطَعَ الْعَمَلِ مَوْجُودٌ فِي النُّصُوصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَشْفَعُ لِمَنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ بِالْجَوَازِ مَعْلُومُ الْجَوَازِ وما هو معلوم الحرمة والشرك. Il y a donc une différence entre ce dont le caractère qui relève du polythéisme est clair et connu et ce qui est permis, tout simplement. L'auteur rahimahullah dit: فالجواب أن نقول. La réponse est de dire: سبحان الله سبحان من طبع على قلوب أعدائه. Exempt soit celui qui a scellé et fermé les cœurs de ses ennemis. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas vu une vérité qui est d'autant plus claire. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. La demande de secours à une créature en mesure d'apporter ce secours, on ne la renie pas. كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Comme Allah Azza wa Jalla a dit concernant le prophète Moussa alayhi salam, lorsque Moussa a rencontré un homme de son peuple se faisant agresser par un homme d'un peuple qui avait une animosité avec le peuple de Moussa alayhi salam. La personne agressée a appelé Moussa au secours. Moussa alayhi salam est venu lui porter secours et a asséné un coup de poing à l'agresseur qui lui fut fatal. L'agresseur est tombé mort. Puis Moussa a demandé le pardon d'Allah et a dit que cela vient de Shaytan. On voit bien que cet individu a demandé secours à Moussa, Moussa lui a apporté. Et cette demande de secours est permise. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit qu'elle relève du polythéisme. وَكَمَا يَسْتَغِيثُ الْإِنسَانُ بِأَصْحَابِهِ فِي الْحَرْبِ. Ou comme un individu qui demanderait secours à aux gens qui sont avec lui s'il y avait une guerre. وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. Ou dans d'autres choses dans lesquelles la créature est capable d'apporter secours. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة. Et ce que nous renions et réprimandons, c'est la demande de secours qui est une adoration. التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. Qui est la demande de secours dans les tombes des pieux ou du vivant de ces pieux mais ils sont absents ou dans des choses qu'ils ne peuvent pas donner comme la personne qui est en train de se noyer ou la personne qui est touchée par le mauvais œil ou la personne qui est touchée atteinte d'une maladie de la stérilité et qu'est-ce qu'elle dit dans ses invocations. Ya Tijani, Ishvini. O Tijani, donne-moi la guérison. هذا مثال من الأمثلة. C'est un exemple parmi tant d'autres. هذه الاستغاثة ننكرها. لأن الله أنكرها. Cette demande de secours, on la réprimande. Car Allah lui-même l'a condamné. سبحانه وتعالى. ولكن رجل يغرق. Un homme qui se noie. ويرى احدا على سفينه تمر به فيقول اغثني لا ننكر هذا لانه حي حاضر قادر. Par contre, quelqu'un qui se noie et voit passer une barque sur laquelle il y a un homme, la personne qui se noie lui demande secours. Est-ce qu'on dit que cela est du shirk? Non, la personne est vivante, présente et capable. Donc la demande de secours des gens au messager le jour dernier n'est pas une forme de polythéisme. Et comme a dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah, hasha an yakuna fi hadi al-anbiya ma yubarrir ash-shirk wa hum ja'u bi muharabat ash-shirk bi suwarihi al-mukhtalifa. Comment pourrait-il avoir dans la guidée des prophètes un appel au shirk alors qu'ils ont tous combattu le polythéisme? Donc voilà le détail de ce qui a été dit. L'auteur a dit: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. Si ceci est affermi, Alors, la demande de secours aux messagers le jour dernier veut dire leur demande d'invoquer Allah. Donc, après avoir clarifié ce point, qu'est-ce que cette demande de secours en réalité le jour dernier? Qu'est-ce qu'ils vont lui demander? Ils vont demander au prophète, alayhi salatu wassalam, tout simplement d'invoquer Allah pour eux. Et ceci est permis dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tout simplement. Afin qu'Allah les repose des afflictions du jour dernier. Ceci est permis lorsque tu te rends vers quelqu'un de pieux qui est vivant, qui est devant toi et entend ta demande. Et tu lui dis, invoque Allah pour moi. Comme le faisaient les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kanu yas'alunahu ad-du'a'a bil-maghfira, ad-du'a'a bil-hidayah. Il lui demandait d'invoquer pour eux afin qu'ils soient pardonnés, afin que des membres de leur famille soient guidés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc il n'y a aucune ambiguïté en réalité. C'est pour cela que l'on disait et que les savants disent que les textes qui portent à ambiguïté en réalité ne sont pas ambigus pour ceux qui ont la science et la compréhension. Ceux qui ont la science et la compréhension, ces textes sont clairs pour eux. Ils savent quand ces textes ont été révélés, de quoi ces textes parlent, comment doivent-ils être compris. C'est pour cette raison que l'ignorance amène à l'ambiguïté et l'ambiguïté amène à l'égarement. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Comme par exemple la mère de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui apportait son fils au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disait, ya Rasulallah, khuwaydimuka Anas ud'u Allah la. Ô messager d'Allah, voici ton petit servant Anas, invoque Allah en sa faveur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit hada min ash-shirk? Est-ce qu'il lui a dit ceci fait partie du polythéisme? Non. Parce que demander à quelqu'un d'invoquer pour toi n'est pas un mal en soi. Par contre, l'auteur dit wa amma ba'da mawti fa hasha wa kalla annahum sa'aluhu dhalika 'inda qabri. Après sa mort, les compagnons ne lui ont rien demandé auprès de sa tombe. بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. Les pieux prédécesseurs ont condamné ceux qui invoquaient Allah Azza wa Jal près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكيف دعاؤه نفسه؟ كيف دعاؤه نفسه؟ Comment alors l'invoquer lui? Et on l'a vu dans Kitab al-Tawhid, dans un chapitre où il y a un homme qui a vu une fissure ou une ouverture qui lui a permis d'entrer et de se rapprocher de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer Allah. Mais il pensait qu'il y avait une baraka particulière ici. Et le pieux prédécesseur qui l'a vu était Ali ibn al-Hussein, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an. Il a vu cet homme et il l'a blâmé. Il lui a dit ala uhaddithuka hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ne vais-je pas t'informer d'un récit que m'a rapporté mon père al-Hussein, qui est un compagnon, an jaddi, d'après mon grand-père Ali, qui est un compagnon, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, la tattakhidu qabri ida wa la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Ne faites pas de ma tombe un lieu de retour constant. Ou ça c'est dans un autre, la deuxième partie, wa la taj'al qabri wathanan yu'bad fi hadithin akhar. Dans un autre récit, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Allah azza wa jal de ne pas faire de sa tombe un lieu d'adoration ou une idole adorée. Donc ici, on voit que le prophète alayhi salat wa salam a interdit de prendre sa tombe comme un lieu de retour constant. Que dire alors de celui qui l'invoque? Que dire alors de celui qui invoque le prophète alayhi salat wa salam en dehors d'Allah azza wa jal? Et voici donc l'ambiguïté qui tombe de ces gens qui essaient de justifier. Qu'Allah azza wa jal nous préserve de cet égarement. L'auteur rahimahullah ta'ala dit: وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى. Ils ont une autre ambiguïté. C'est la douzième et la dernière. وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. Ils disent: dans l'histoire du prophète Ibrahim عليه السلام, lorsqu'il a été propulsé dans le feu. Ta'rifoun al-qissa. Connaissez l'histoire. Ibrahim alayhi salam les a appelés à Allah azza wa jal. Et dans la fin de l'histoire, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une catapulte. Et ils l'ont propulsé dans le feu. Tellement les flammes étaient élevées, grandes et ardentes. Ils ne se sont pas approchés du feu et l'ont propulsé dans le feu. Dans cette histoire, il est dit que alors qu'il était en plein vol, Jibril alayhi salam est venu à lui et lui a dit « Alaka haja, as-tu un quelconque besoin ?» Il lui a proposé de l'aider. Et Ibrahim alayhi salam lui a dit « Amma ilayka fala, quant à toi, je n'ai nul besoin, aucun besoin de toi. » Jusqu'à la fin de l'histoire. Ils ont dit « C'est la preuve que si demander le secours de Jibril était du shirk, alors Jibril n'aurait jamais proposé d'apporter le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et après avoir écouté un peu le tawhid, vous savez que cette ambiguïté est très faible. Mais avant cela, al-Sheikh Abdul Razak ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah wa aba, le Sheikh a dit: on voit encore que les polythéistes يتركون المحكم من النصوص, abandonnent les textes explicites et clairs, les نصوص متشابهة, pour des textes qui prêtent à ambiguïté ou confusion. Pourquoi il dit cela? Il continue, il dit: car Ibrahim alayhi salam, c'est bien un prophète où il y a énormément de preuves où l'on voit qu'il condamne son peuple à maintes et maintes reprises de commettre le shirk. Ils ont délaissé tout cela et ont été chercher cette histoire pour justifier que il est permis de demander secours à un autre qu'Allah Azza wa Jal de façon absolue. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, cette histoire, le hadith est faible. Le récit n'est pas sahih. Le récit n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est que Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Et il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais que Jibril est venu à lui dire: as-tu besoin d'aide? Hadha laysa bi sahih. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah, l'imam des savants du hadith de cette époque, et d'autres parmi les gens de science, connaisseurs de la science du hadith, ont dit que ce récit n'est pas authentique. Donc, non seulement ils vont dans des textes qui sont ambigus, voire faux et faibles, dont l'authenticité n'est pas avérée, n'est pas prouvée. Donc ça, ce sont des points à prendre en compte. L'histoire d'Ibrahim alayhi salam, vous la connaissez. Il a dit « Hasbi Allah wa ni'am al-wakil »« Allah seul me suffit, quel merveilleux garant » Et Allah Azza wa Jal a ordonné au feu d'être une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. soit une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Et ce fut le cas. Ibrahim est sorti des flammes indemne et intact, car il a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit dans cette histoire qu'Allah azza wa jal est capable d'enlever aux causes leur effet. Le feu est une cause qui a un effet brûlant. Allah azza wa jal est capable d'enlever aux causes leur effet. Ainsi, lorsque tu fais des causes, ne t'attache pas aux causes, car Allah est capable d'enlever l'effet de ces causes. Et ça, c'est une grande leçon pour le tawhid. On l'a vu en détail dans Kitab al-Tawhid d'ailleurs. Walhamdulillah, الذي وفقنا لتعليم التوحيد للناس. Qu'Allah Azza wa Jal soit loué pour nous avoir guidés à étudier et enseigner le tawhid aux gens. وأصل ضلالهم في هذه الشبهة عدم التفريق بين الجائز والحرام. La base de cette ambiguïté, c'est le fait qu'ils n'ont pas su faire la différence entre ce qui est permis et interdit dans la demande de secours. Et ça, c'est ce qu'on a vu en détail. L'auteur, rahimahullah, a dit on verra la réponse, inshallah ta'ala, et la fin du livre au prochain cours. C'est-à-dire demain, inshallah ta'ala, on terminera l'étude du livre Kashf al-Shubuhat. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك